À la une, Gaston Tongsong qui est candidat à un 7e mandat à Bora Bora où il a beaucoup de projets, vous l'entendrez. Les grèves aussi, et notamment cette question des salaires à la BP. Et enfin, Tahiti 2027 qui a tous ses financements. Le journal de la rédaction présenté par Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et on parle politique pour démarrer. Gaston Tongsong est candidat pour un 7e mandat à Bora Bora.
Oui, il était notre invité hier et il a annoncé qu'il sera donc candidat à un nouveau mandat à Bora Bora au municipal de l'année prochaine. Il occupe la mairie depuis 1989 quand même. Et à 75 ans, l'ancien président autonomiste ne veut pas s'arrêter. Il veut continuer à porter les projets de sa commune, notamment en matière de développement durable. On vous détaillera tout ça dans quelques instants, mais pour commencer, ce chantier qui sera au centre de sa campagne, il s'agit du Grand Vaitapé, un vaste projet d'aménagement sur un foncier de 4 hectares, un grand pôle d'activité commerciale, touristique et culturelle, et qui s'appuierait surtout sur l'investissement privé international. Bora Bora veut capitaliser sur sa marque et attirer le milieu du luxe. Le budget de 350 millions de francs a été voté mardi soir en conseil municipal.
Et c'est un budget qui va tourner une nouvelle page de l'histoire de Bora Bora. On s'en lance en fond d'un immense projet. Vous allez découvrir après. En fait, l'ennemi du maire, c'est le temps. Ces projets-là demandent du temps. Voilà. Donc, ça ne colle pas forcément avec la durée du mandat. Heureusement que ma population m'a confié la mairie 6 mandats. Donc, ça me permet de faire des tas de projets comme l'eau, l'assainissement. Maintenant, on lance Bora Bora dans une voie plus forte.
Voilà une nouvelle page donc que Gaston Tongsong veut continuer à écrire, un projet qui pourrait donner à Lille les moyens d'être autonome financièrement.
Et il y a donc aussi tous ces projets de développement durable.
Dont voici le détail. Bora Bora se rêve en laboratoire du futur. La commune a toujours été en avance avec les grands chantiers du réseau d'eau potable. Ceux de l'assainissement dès les années 90, le premier SWAC commercial mondial en 2006, puis le CET communal qui fait toujours figure d'exception dans les îles. Et Gaston Tongsong en est fier. Il veut continuer dans ce sens, conviction écologique mais aussi obligation commerciale avec le tourisme de luxe. Trois gros projets sont donc en route. On parle de SWETE pour Solar and Sea Water Experiment for Energy Transition. Le premier, une unité agrivoltaïque dans l'année. Sur le motu Teveiroa, c'est SWETE 1, des panneaux montés sur serre ou en ombrière qui produiront de l'énergie renouvelable et de l'eau grâce à une lentille d'eau douce découverte sur le motu. De quoi faire des économies car les osmoseurs, eh bien ça coûte cher et cette lentille d'eau douce peut produire jusqu'à 1000 mètres cubes par jour. Deuxième gros projet, une unité pilote d'énergie thermique des mers. Voici SWETE 2, de quoi arriver à 100% d'énergie renouvelable, espère Gaston Tongsong, tout en préservant son paysage.
Moi, je ne suis pas à fond pour les panneaux. Je ne veux pas non plus sacrifier mon paysage avec des panneaux solaires. Et le TM vient en complément par rapport au photovoltaïque. Si on peut faire des modules de 2 MW à chaque fois, bon, on peut être autonome assez facilement pour ouvrir les 12 mégawatts qu'on a besoin pour alimenter toute l'île.
Un complexe qui doit se situer au bout du motu Mouté de l'aéroport et qui pourrait aussi accueillir un musée, des hangars pour les jets privés, des usines de cosmétiques ou d'eau en bouteille qui utiliseraient l'eau des profondeurs. Et enfin, troisième projet, la transformation du CET en usine de production de dihydrogène à partir de déchets. Elle sera alimentée par des panneaux photovoltaïques et ce dihydrogène, eh bien, il servira aux navettes de l'aéroport et aux bateaux des hôtels et de la commune.
Il y a des moteurs hydrogène qui font autant de bruit qu'un moteur thermique. Mais je ne veux pas de ça à Bora parce qu'il faut du silence. Donc par contre, il y a des batteries à combustion qui marchent avec de l'hydrogène et qui alimentent les moteurs électriques en électricité. On s'oriente vers cette solution-là. Il y a aussi moyen d'économiser davantage l'énergie électrique parce qu'il y a le système de Floyd, des bateaux qui décollent un peu de la surface de l'eau et qui a moins de frottement sur l'eau, consomment encore moins d'énergie. Voilà. Donc il y a des modèles qui sont en développement en Suisse pour faire des transports de passagers.
Voilà, tous ces nouveaux projets, eh bien, c'est l'avenir pour le maire de Bora Bora. Il veut faire de son île un vrai laboratoire du futur, donc on vous l'a dit. Et évidemment, tous ces projets ont un coût. Et il a bien avancé sur leur financement. L'unité agrivoltaïque du motu Teveiroa, appelée SWETE 1, est estimée à 1,5 milliard de francs. Le fonds intercommunal doit être mobilisé, mais il sera en grande partie porté par l'entreprise conceptrice AQO et les propriétaires fonciers. Pour SWETE 2, le projet d'énergie thermique des mers, on parle de 12 à 15 milliards de francs. Est allé jusqu'à Bruxelles pour espérer avoir des aides européennes. Et enfin, l'usine de dihydrogène devrait coûter 700 millions de francs. Et Gaston Tongsong mise là sur des partenariats publics-privés. Voilà, son interview est à retrouver en intégralité sur notre site radio1.pf et notre page Facebook.
Le journal de la rédaction, 7h05 et 7 questions maintenant. Les salaires arriveront-ils à temps ?
C'est ce que se demandent les clients de la Banque de Polynésie alors que le personnel est en grève depuis 2 jours. Ça risque effectivement d'être plus long, répond l'intersyndicale, car les agents en charge des vérifications nécessaires à ces versements seraient tous en grève, mais certains d'entre eux assurent un service minimum. Dans le même temps, les premières discussions avec la direction ont laissé les grévistes sur leur faim. On vous le rappelle, ils demandent une revalorisation salariale, la renégociation de l'intéressement, l'amélioration des conditions de travail et surtout l'intersyndicale exige la suspension du projet de réorganisation du groupe dans le Pacifique. Les grévistes parlent désormais de durcir le mouvement.
Et le ton monte aussi chez Aper Apurade.
Oui, où la grève dure depuis plus d'une semaine et la direction accuse désormais les grévistes de bloquer l'accès aux locaux et de mettre en danger la continuité des soins des patients. On écoute la directrice des soins, Frédéric Davier.
Ils ont entamé un blocage au niveau de l'accès du stock des produits de santé qui sont bien sûr indispensables à la continuité des soins, soit en dialyse, soit avec les prestations de santé à domicile. Donc ça veut dire que nous ne sommes plus en mesure de livrer les patients qui sont fragiles, qui sont dépendants, qui sont en insuffisance respiratoire ou en insuffisance rénale. À partir de demain soir, il y a les premières unités de dialyse qui ne pourront plus être livrées et elles vont être en rupture de dispositifs médicaux. Ça commence demain soir.
Grosse inquiétude donc désormais pour les patients de Aper Apurade, une direction qui dit ne pas pouvoir augmenter les salaires après 2 années de déficit. C'est pourtant la demande du syndicat. Autre son de cloche du côté de la CSTP-FO qui trouve que la direction exagère.
Il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de blocage. Les patients circulent, les voitures qui les transportent circulent, les dépôts viennent devant l'entrée du centre de dialyse et les médicaments peuvent être acheminés. Les propositions qui ont été faites par la direction sont inadmissibles. Nous sommes toujours ouverts à la discussion. Pour le moment, nous constatons que nous avons des interlocuteurs soi-disant mandatés pour le faire, mais qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui ne décident rien.
C'était Avery Lachaud de la CSTP-FO.
Et le pays et l'État de leur côté viennent de signer la nouvelle convention cadre 2025-2027.
Oui, qu'on appelle aussi troisième instrument financier. Plus de 8,5 milliards de francs, dont 6 financés par l'État, à l'occasion d'être rassuré sur le financement de Tahiti 2027, car une partie bénéficiera aux infrastructures des Jeux du Pacifique. Et le haut-commissaire a également annoncé le maintien des crédits du contrat de développement et de transformation d'un montant annuel de 2,6 milliards, toujours pour les Jeux.
Hier, le ministère de l'Outre-mer, dans un contexte budgétaire extrêmement tendu, a décidé de maintenir l'intégralité de la tranche 2025 du contrat de développement et transformation, c'est-à-dire 2,7 milliards de francs pacifiques, qui serviront intégralement à financer des opérations liées aux Jeux du Pacifique. Ça s'ajoute à l'argent qu'on met sur le 3IF auprès de l'AFD et puis tout notre technicité dans le domaine de la sécurité. Donc l'État sera bel et bien présent aux côtés du pays pour que ces Jeux réussissent aussi bien que les Jeux Olympiques.
Et Tahiti 2027 encore avec cette subvention de 160 millions en faveur de l'Institut de la Jeunesse et des Sports, une enveloppe qui va servir au financement des études pour la construction des 2 bassins de natation mobile. La ministre des Sports, Nahima Temari, en parle depuis plusieurs mois. Ces bassins devraient être installés pour les Jeux du Pacifique sur le site de Mamao.
On parle fait divers à présent avec cette info en bref.
On vous avait parlé, oui, de ce crâne et de ce 4x4 retrouvé dans le lagon à proximité du Motu de Harwe. Eh bien, le crâne a été identifié selon Tahiti Info. C'est celui d'un homme disparu en 1999. Il s'était volatilisé après une soirée sur le Motu de Harwe et n'avait jamais été retrouvé. Aucune information n'a encore été donnée concernant la voiture.
7h10 dans le journal et à l'université, 8 étudiants chercheurs vont participer à l'édition 2025 du concours Ma thèse en 180 secondes.
Oui, c'est ce soir à Outu Mauro. Ils auront 3 minutes pour expliquer clairement leurs travaux et surtout essayer de séduire le public. Un concours qui permet de montrer le dynamisme de la recherche en Polynésie française et aussi de faire connaître les travaux scientifiques menés localement. Pour cette édition 2025, ils seront donc 8 candidats à présenter leurs travaux. Ça va de l'impact des JO à Tahiti à l'Océanie des cadres dans l'hôtellerie de luxe, en passant par le droit à la concurrence ou encore la santé en milieu insulaire. Des sujets variés donc pour ce concours, formidable exercice de médiation scientifique. C'est donc ce soir à 17h dans l'amphi A3 de l'université. L'entrée est libre et gratuite.
Et on termine, Lucie, avec du spectacle et une 5e date pour Omorito.
Et oui, quel succès. Les dates se rajoutent au fur et à mesure du remplissage de la salle. La pièce de théâtre Omorito Tauvahine en Reo Tahiti, produite par SA Productions, va donc avoir 5 représentations. Ce sera les 28 et 29 mars et les 4, 5 et 6 avril au Petit Théâtre de la Maison de la Culture.
Et n'hésitez pas à aller chercher vos places, il en reste sur ticketpacifique.pf dans les magasins Carrefour et à l'accueil de vos radios à Faleuté. Lucie, merci, c'est la fin du journal.
Oui, retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
On sera là tout à l'heure.